Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Il est 18h, Rukaya Abdrahman pour la présentation de ce journal. Au sommaire, la Commission nationale des droits humains et ses partenaires au Niger organisent à Niamey des activités en faveur des détenus. C'est à l'occasion de la Journée mondiale des détenus lancée pour la première fois en août 1955. Le Niger relance la campagne de vaccination contre la poliomyélite, une maladie qu'on pensait avoir éradiquée et qui est réapparue en début du mois en cours. Plus de 3 millions d'enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés à Maradi, Diffa, Zender et Agadez. En fin de cette édition, vous saurez aujourd'hui les voies à suivre pour porter plainte et chercher réparation en cas de viol. C'est la suite du reportage sur les femmes victimes de violences du village de Bundumbunja, un village de la région de Tillabéri, et c'est avec Diallo Maria Makenda. Monsieur Dam, bonsoir. Quelle perspective pour les peines alternatives à l'incarcération au Niger et contribuer à la réintégration pacifique des présumés détenus et repentis de Boko Haram dans la région de Diffa? C'est autour de ce thème que la Commission nationale des droits humains, avec l'appui de ses partenaires, organise à Niamey du 25 au 28 octobre des activités en faveur des détenus à l'occasion de la 5e édition de la Journée internationale des détenus institués depuis le 30 août 1955. D'autres précisions avec Sofiane Ben Achour de Search for Common Ground au micro de Moussa Hassan.
Souvent avec les différentes priorités que nous avons, les différentes questions liées à la sécurité et au développement, il y a les questions qui tombent à côté. Et dans ce cas, on peut citer les questions des détenus et les centres carcérales. Donc c'est une opportunité vraiment non seulement au Niger, mais pour la communauté internationale de regarder ces questions, de regarder les conditions, les processus et l'appui qu'on peut amener parmi les plus vulnérables de notre société. Donc, le Journée internationale des détenus, on peut dire, est une opportunité de mettre en évidence toutes les questions liées à les centres d'incarcération, mais aussi les détenus. Il y a les détenus de droit commun, mais il y a aussi une initiative du gouvernement qui est le cadre de réintégration des ex-combattants de Boko Haram. Donc, dedans, il y a non seulement celles qui sont des repentis, mais il y a beaucoup qui ont été arrêtés pendant la période de crise en 2015, en 2016, qui sont aussi parmi les détenus.
30 magistrats du Niger, du pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale en formation aujourd'hui à Agadez. À l'issue de cette formation de 3 jours sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, ces spécialistes seront au même niveau d'information afin d'éviter la contradiction dans les décisions communes, explique Maimouna Gazibo, directrice général de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes au micro d'Anissé Karim.
Le statistique du pôle antiterroriste est différent. Les statistiques parlant, c'est à Agadez. Donc c'est une opportunité pour eux de voir la région, de voir la problématique qu'ils voient les ghettos pour se poser la question. Est-ce que si le procureur de Niamey est compétent en matière de lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants, c'est combien de trafiquants il faudrait transporter d'Agadez pour amener juger à Niamey? Qu'ils puissent évaluer l'inefficacité de la loi sur le pôle qui dit que le procureur est compétent pour les questions de traite et de trafic illicite de migrants, parce que c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup d'argent qu'il faudrait mettre pour pouvoir juger les dossiers de trafic illicite de migrants à Niamey. C'est également l'opportunité pour ces magistrats de voir les mesures de confiscation. Est-ce que tous ces véhicules qui ont été confisqués, si les dossiers devraient être jugés à Niamey, comment ça devrait se faire?
Une position de l'armée a fait une descente mercredi matin à Blaï, un village situé à 25 km de Bosso dans la région de Diffa, où 2 producteurs de poivrons ont trouvé la mort. L'on dénombre également 3 blessés et plusieurs cases incendiées, selon le père d'une victime rencontrée par notre correspondant local. Le gouverneur de la région, Mamman Bakabe, qui n'a pas voulu se prononcer sur le drame, a indiqué à notre correspondant qu'il prépare une mission dans la zone du sinistre. La campagne de vaccination contre la poliomyélite au Niger a débuté ce matin dans les quatre régions Maradi, Diffa, Zender et Agadez. Plus de 3 millions d'enfants de 0 à 59 mois seront touchés par cette campagne, a indiqué Dr Souley Rabi Maitournam, directrice du programme élargi de vaccination.
C'est les 0 à 59 mois qui doivent être vaccinés. Ils font 3 160 848. Et dedans, nous avons scindé les enfants en deux pour des questions techniques. Les 0-11 mois, où nous avons 663 269 enfants, et les 12-59 mois, où nous avons 2 505 580. Pourquoi cette segmentation? Les 0-11 mois, c'est eux qui sont couverts généralement par la vaccination du PEV. Pour voir s'il n'y a pas de zéro dose, des enfants qui n'ont jamais été touchés, nous ciblons les 0-59 mois parce que c'est eux qui sont plus exposés à développer la maladie et qui sont plus exposés aussi aux différentes mortalités. Le gouvernement, en collaboration avec nos partenaires, déploie d'énormes moyens financiers, moyens logistiques et moyens humains pour pouvoir faire les porte-à-porte et pouvoir atteindre individuellement chaque cible, chaque enfant.
Propos recueillis par Soumane Amadou. Le président du réseau des parlementaires anti-tabac du Niger a déposé une proposition de loi anti-tabac à l'Assemblée nationale. Cette loi a été adoptée depuis 2006, mais sa mise en vigueur n'est pas effective, selon Inoussa Sauna, président de l'association SOS Tabagisme au Niger, qui a participé à l'élaboration du nouveau document. Il explique les raisons de la révision de cette loi au micro de Soumane Amadou.
Il s'agit d'un amendement pour renforcer la loi qui existe déjà depuis 12 ans. Au vu de son inefficacité, parce qu'elle n'est pas mise en œuvre à 100%, de pouvoir la mettre au même niveau que les autres lois de la sous-région. Et elle vise également à introduire dans la loi les autres produits du tabac qui n'existaient pas en 2006 pendant son adoption, comme la chicha par exemple, de pouvoir introduire l'interdiction de son importation, de sa vente, y compris ses accessoires, mais également d'introduire des dispositions permettant à l'État de pouvoir taxer les produits du tabac, non seulement la rendre inaccessible aux enfants et aux pauvres, mais surtout permettre à l'État d'avoir des recettes et permettre une réelle protection des populations. Notre souhait est que les dispositions nouvelles qu'elles contiennent actuellement permettront de la rendre plus applicable que les autres lois.
Selon toujours le président de SOS Tabagisme, cette proposition de loi a été retirée du calendrier des travaux de l'Assemblée 48 heures avant les discussions prévues aujourd'hui, jeudi 25 octobre 2018. Dans une école d'Agadez, entre 1 000 et 3 000 francs CFA sont réclamés par élèves pour ériger des classes en paillotes. Une information confirmée par le directeur de l'école primaire d'Agmanet 4, reconfortée par une décision du comité de gestion des établissements scolaires COGES à ce sujet. Certains parents d'élèves ne sont pas prêts à s'exécuter pour diverses raisons. Voici le reportage de notre correspondant Anissé Karim.
Entre 1 000 et 3 000 francs CFA, c'est ce qui est demandé à chaque élève de verser.
Somme qui va servir à effectuer certains travaux au sein de l'établissement, comme la construction des classes en paillotes et l'achat de certaines fournitures. C'est l'homme Malan Abaché Moussa, directeur de l'école d'Agmanet 4.
Le COGES a réuni les parents par rapport aux problèmes de l'école et ils ont identifié tous les problèmes. Maintenant, ils ont proposé ce qu'on va acheter et ils ont donc arrêté la cotisation à 2 000 francs. Ce qui porte dire que ceci, cela, non, c'est faux, vraiment. La cotisation annuelle, c'est 2 000 francs et c'est la proposition du COGES.
Rien n'oblige les parents des élèves à payer cette somme, précise l'inspecteur des enseignements primaires base 1, Alkassou Mamadou.
Ça va nous interpeller, puisque les parents d'élèves n'ont pas les moyens de cotiser par élève 3 000 francs. En tout cas, ça serait impossible, parce que tu peux avoir un parent d'élève qui a plus de 5 élèves. Si elle était ainsi, donc on va s'asseoir avec les responsables de cette COGES et les responsables de cette école et on va voir comment solutionner les problèmes qui surgissent dans cette école-là.
Au Niger, l'école est un droit pour tout enfant et un âge requis, d'où la nécessité de revoir cette situation par les responsables de l'éducation, estiment les parents d'élèves. Anissé Karim, Agadez, pour le studio Kalangou.
Diagnostiquer, analyser et apporter des corrections aux insuffisances constatées dans le système éducatif national nigérien, c'est l'objectif de l'atelier qui vient de prendre fin à Niamey sur la validation et la restitution du rapport sur l'état du système éducatif qui manque de qualité, relève Mohamed Zaidane, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, au micro de Gungu Mohamed Dantani.
Il s'agit de faire l'état des lieux. Toute la situation, le rapport a posé le contexte dans lequel nous sommes. diplôme. Contexte institutionnel, le contexte politique, le contexte économique dans lequel évolue le système éducatif. Il y a au nombre de 10 chapitres qui traitent de toutes les questions allant de l'accès à la qualité du système et à sa gestion. Il y a également à l'intérieur des chapitres spécifiques dédiés à des secteurs importants en rapport avec l'emploi, notamment l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur. Le rapport a déjà révélé que notre système éducatif est financé à plus de 70% par l'État du Niger. Il faut dire que le diagnostic pose les mêmes problèmes en règle générale, selon les cycles. C'est que si nous avons pratiquement fait beaucoup d'efforts sur le plan de l'accès, il y a encore des choses à faire sur le plan de la qualité du système. Les partenaires et l'État ont mis les moyens nécessaires. C'est à nous maintenant d'avoir une gestion saine, une gestion à la hauteur des attentes de notre peuple.
À noter que cette activité a été financée par l'État du Niger avec l'appui de l'Agence française de développement AFD et la coopération suisse. La bancarisation des salaires des fonctionnaires envisagée par l'État continue de susciter des questions de part et d'autre. À l'intérieur du Niger, dans certains départements, il n'y a aucune institution bancaire, encore moins un bureau de poste. C'est le cas d'Aderbisnet, dans la région d'Agadez, où le secrétaire général de la commune parle de réelles difficultés pour les enseignants d'accéder à leur salaire. Alassan Akawel est interrogé par Tarnan Foudahmed.
Aderbisnet, donc, c'est une nouvelle commune et en même temps un nouveau département de 25 000 km². Mais malheureusement, ici au niveau d'Aderbisnet, même au niveau du chef-lieu de la commune, nous ne disposons d'aucune institution bancaire. Aussi, on n'a aucun bureau de poste. Et vous savez que les enseignants, les situations dans lesquelles sont, certains sont au niveau des écoles les plus reculées de la commune et souvent, c'est des écoles qui sont hors réseau et n'ont pas de couverture réseau au niveau de certaines zones de la commune. Donc, je pense que vraiment, ça serait une situation un peu difficile pour les enseignants qui sont donc au niveau de la commune d'Aderbisnet. Ils auront vraiment des difficultés pour faire les déplacements sur Agadez. Ceux qui sont à côté n'auront pas de difficultés pour faire les déplacements sur Agadez.
Pour rappel, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a accordé jusqu'au 31 décembre de l'année en cours aux fonctionnaires pour ouvrir des comptes dans les banques de leur choix, faute de quoi un compte leur serait ouvert au bureau des postes. Et puis la partie magazine de cette édition, suite du reportage sur les cas constatés de violences subies par les femmes dans un village à 25 km de Mangaise dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui, les auxiliaires de justice indiquent les voies à suivre afin de porter plainte et chercher réparation pour viol. Le reportage signé Diallo Maria Makenda.
Les femmes qui ont subi des agressions, des atteintes sur leur intégrité physique et psychologique peuvent porter plainte en saisissant les juridictions nationales. C'est en tout cas ce que confirme Maître Abdou Mariama, avocate au barreau du Niger.
À travers même sa plainte, elle déclenche automatiquement l'action publique pour l'application des peines et également l'action publique tendant à obtenir réparation du préjudice que cette femme a subi.
Maître Amadou Boubacar, également avocat au barreau du Niger, décrit ici la mise en mouvement de l'action publique, une démarche qui implique l'intervention du procureur et ses officiers de police judiciaire.
Ça peut provenir d'une plainte de la victime. Aujourd'hui, le procureur peut écouter cette émission. On peut parler du cas d'un village et sur cette base, le procureur doit agir.
Dans le cas où c'est la victime qui veut porter plainte, voici comment elle doit s'y prendre, explique Boubacar Adiza Adamou, commissaire de police en charge des questions de femmes et de mineurs à la direction de la sécurité publique de Niamey.
Aussitôt la plainte formulée, on lui délivre un document pour aller se faire examiner. C'est partant des résultats donnés que nous engageons la procédure.
Commissaire Boubacar Adiza Adamou précise que pour les femmes kidnappées, puis relâché, l'expertise médicale porte une mention spéciale de l'agent de santé.
Le médecin fait mention que la victime déclare être violée.
Cet enlèvement seulement suffit comme preuve car il ôte tout consentement, déclare l'avocat Amadou Boubacar.
Les cas des filles de Difa enlevées dernièrement à Nguelewala, on présume déjà qu'elles sont violées. Donc là, il n'y a même pas matière à chercher ailleurs.
La difficulté dans ce cas précis, c'est de mettre la main sur les coupables. Cependant, une alternative existe. Écoutons une fois de plus l'avocat Amadou Boubacar.
Si elle ne reconnaît personne, on porte plainte contre X. Le viol, d'abord, est criminel. La prescription, c'est 10 ans. C'est l'État qui est en premier chef responsable du préjudice que ces femmes ont subi parce que l'État a failli à son devoir de protection.
Ainsi prend fin ce journal. Merci, au revoir.